Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur la Radio du Monde.
RFI.
Tous les jours, nous croulons un peu plus sous l'information, un déluge croissant d'images, de sons, de contenus et de données qui déferlent sur tous les écrans. Mais quel est le vrai du faux dans l'information ? A-t-elle été créée pour que nous nous fassions notre propre opinion ou a-t-elle été fabriquée pour nous influencer dans nos choix ? Enfin, avons-nous les outils pour distinguer le vrai du faux dans l'info ? Le mensonge aurait-il une valeur plus importante que la vérité ? Tels sont les sujets qui nous animent ce soir. Et pour en parler, deux invités en studio. Thomas Huchon, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, documentariste pour le site internet Spicy, à l'origine du projet Conspi Hunter. Ce projet en quelques mots ?
C'est un peu l'idée de journalistes qui cherchent à traquer les conspirations sur Internet, les fausses conspirations sur Internet, et qui va se plonger un petit peu dans l'univers du digital, avec un petit accent prononcé pour les poubelles d'Internet, qui sont justement l'endroit où on raconte un peu n'importe quoi.
Et en face de vous, Arnaud Mercier, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur en communication politique à l'université Paris 2 Assas, président honoraire du site The Conversation. Le but de ce site ?
Eh bien, c'est un site créé par un journaliste britannique, mais en Australie, donc créé d'abord en Australie, et qui repose sur une idée assez forte, c'est que la rédaction est animée par des journalistes, mais seuls écrivent des experts, des académiques, et donc c'est des papiers plus longs. Puisque on va faire du 6 à 10 000 signes, là où souvent sur des sites on dit il faut faire 2 à 3 000, hein, et surtout c'est des gens qui sont là pour leur expertise vraiment sur un sujet donné, très précis, très ponctuel, et tout ça est absolument gratuit et même peut être republié gratuitement par tous les sites d'information de France et du monde.
Alors, beaucoup d'anglicisme, vous l'avez entendu, hein, pour évoquer toutes ces notions liées à l'information. On citera également fake news, mais aussi post-truth, post-vérité, expression qui n'aurait peut-être pas vu le jour sans l'élection de Donald Trump ou la victoire du oui au Brexit, et des électeurs qui auraient été sciemment influencés dans leur vote. Pour commencer, quelle est votre définition de la post-vérité ? Arnaud Mercier.
Alors déjà, il faut faire très attention au terme post, parce qu'on a tendance à l'utiliser toujours dans l'idée que c'est dans une dynamique historique, c'est post, ça vient après, alors qu'en fait, là, en l'occurrence, le préfixe post signifie qui est au-delà de la vérité. Et donc la post-vérité, c'est cette idée finalement que il y a des situations où pour des gens ce n'est plus la vérité factuelle qui compte, mais c'est la défense de ses opinions. Et donc la défense de ses opinions l'emporte sur la recherche de la vérité.
Ce qui est lié directement avec le mot fake news, que vous pouvez peut-être nous détailler, Thomas Huchon.
Exactement. Alors déjà, je veux dire qu'Arnaud Mercier m'a réconcilié avec la notion de post-truth, post-vérité. Moi, finalement, la post-vérité, pour moi, je le prenais probablement dans un mauvais sens, mais ça sous-entendait l'idée qu'avant, on nous disait tout le temps la vérité, ce avec quoi j'avais un petit peu de mal. Fake news, c'est un terme anglais qui sous-entend l'idée d'une intention. C'est-à-dire que quand on voudrait traduire le terme fake news en français par fausse information, il nous manque un élément.
Exactement.
Fake news, c'est quelque chose qui a été sciemment, volontairement fabriqué pour avoir l'air vrai alors qu'il était faux. Et c'est justement tout la grande difficulté aujourd'hui pour arriver à s'informer sur Internet, c'est qu'il y a énormément de gens qui vont fabriquer des choses. Et qui vont fabriquer des choses fausses en leur donnant l'air du vrai.
Arnaud Mercier.
Oui, justement, pour compléter, je dirais que il est de bon ton, notamment dans l'espace francophone, de dire oui, c'est un anglicisme de plus, alors que le mot fausse nouvelle existe. Il existe même dans la loi sur la presse de 1881. Donc, effectivement, la notion est ancienne. Sauf que moi, je dirais, en tant que sociologue, que il faut être attentif à quelque chose qui est de l'ordre, j'allais dire, de l'intuition de la société. C'est-à-dire que si le terme fake news s'impose au lieu de fausse nouvelle, ça nous dit quand même quelque chose. Ça nous dit, effectivement, il y a l'idée de forger quelque chose, et donc c'est pas false news, hein, du point de vue des Anglais. Donc, je pense que fake news, ça s'est imposé parce que justement, on ressent que c'est pas tout à fait les fausses nouvelles comme d'habitude. Disons que si on faisait une histoire des fausses nouvelles, alors les fake news sont une fausse nouvelle d'un genre nouveau et qui est complètement lié à l'écosystème socio-numérique de l'information, parce que c'est le digital plus les réseaux sociaux qui expliquent l'émergence des fake news.
Et pour information, la commission d'enrichissement de la langue française a statué, hein, et dit plutôt infox,
qui est plutôt une bonne idée.
Un néologisme qui va juxtaposer information et intoxication.
Mais effectivement, en fait, ce terme-là, il a certainement plein de défauts, mais il a quand même un gros avantage. C'est qu'il y a assez peu de chances qu'il soit utilisé par Donald Trump et donc qu'il donne une autre définition à un mot sur lequel nous avons posé un diagnostic. C'est un peu le problème des fake news. Hein, quand nous parlons de fake news, nous parlons d'informations fabriquées par des gens afin d'avoir l'air vrai alors qu'elles sont fausses. Mais quand le président des États-Unis d'Amérique parle de fake news, lui, il parle de nous. Il parle de vous, il parle de moi, il parle des journalistes professionnels qui manipuleraient les populations sciemment avec une volonté cachée, intrinsèque. Hein, quand il dit CNN fake news, il parle donc de CNN, l'un des plus gros réseaux d'information aux États-Unis, qui est quand même un réseau d'information sérieux. On peut lui trouver plein de défauts, mais ils sont sérieux chez CNN. Et donc effectivement, le terme d'infox, moi je l'aime bien, parce qu'il y a quand même assez peu de chances que Monsieur Trump vienne nous le voler.
Arnaud Mercier.
Et c'est vrai qu'il ne faut pas céder à cette forme d'intimidation qui consiste à démonétiser un terme en le retournant contre ses adversaires, parce que j'ai entendu des collègues me dire bah écoute, on peut plus utiliser le terme fake news maintenant que Donald Trump et d'autres le remettent à leur sauce. Oui, mais si on commence à faire ça, c'est terrible, parce que si quelqu'un vous dit que quelqu'un qui caresse un enfant est raciste, et donc on peut plus utiliser le terme raciste, ou si quelqu'un détourne totalement de son sens un mot et que du coup on cède à cette intimidation intellectuelle, on ne peut pas. Donc je pense qu'il faut rester ferme sur l'idée qu'on peut avoir une définition positive de fake news, et c'est vrai que le terme infox me paraît plutôt un bon compromis dans la langue française.
Comment en sommes-nous arrivés là, à l'essor de toutes ces infox? Est-ce le plus grand réseau social aux couleurs bleues qui commence par un F qui est à l'origine de tout ce mal?
Mais je ne sais pas s'il est à l'origine, mais en tout cas, il a été un élément de la concrétisation des problèmes dans nos sociétés modernes. Il faut quand même se remettre un petit peu dans le contexte. Il y a 15 ans, cette entreprise n'existait pas, Facebook. Aujourd'hui, elle dispose de plus d'adeptes que le christianisme. Hein, donc il y a 2,5 milliards d'adeptes de Facebook, et je vous garantis un truc, c'est que on va beaucoup plus souvent sur Facebook qu'on va à l'église, et que Facebook en sait beaucoup plus sur vous que votre confesseur du temps où vous alliez vous confesser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise privée qui a ses propres règles, dont on pourrait discuter, mais qui a ses propres règles, est devenue le premier vecteur de socialisation et de politisation dans nos pays. Et ça bouleverse complètement nos schémas anciens, nos règles, nos garde-fous, nos manières de nous protéger contre, y compris les extrémismes, les choses qui avaient été effacées petit à petit dans la société française, hein, par exemple. Mais on avait un certain nombre de moyens de fonctionner, et ces moyens ont explosé en 15 ans, ce qui est très rapide. Hein, quand la télévision s'est imposée comme un média, elle a bouleversé bien entendu la société, mais ça a été assez long, il fallait que tout le monde s'équipe.
Au point d'ailleurs que des campagnes électorales se font uniquement parfois sur Internet et très peu sur le média dit traditionnel.
Mais oui, et surtout en fait il y a une espèce de séparation de la parole publique, c'est-à-dire que vous allez avoir ceux qui ont accès aux médias professionnels, et vous allez avoir ceux qui n'y ont pas accès. Et lors de la dernière campagne présidentielle en France, par exemple, on a vu surgir des personnages assez inconnus, mais qui pourtant, sur Internet, disposaient d'une audience absolument énorme. Probablement parce que, n'ayant pas accès aux médias professionnels, ils avaient construit leurs propres médias. Ils avaient compris l'opportunité qu'Internet leur donnerait pour imposer leur idéologie, mais avec de la culture, et non pas de la politique.
Si Facebook est planétaire, la notion d'intox ou de fake news est elle aussi planétaire, Arnaud Mercier?
Très très clairement, on le voit maintenant dans pratiquement chaque élection, on peut documenter des tentatives de manipulation à travers la mise en circulation d'infox, que ce soit en Amérique latine, on l'a vu au Brésil, avec d'autres supports comme WhatsApp par exemple, on l'a vu en Indonésie, en Inde, on le voit en Afrique, enfin il y a vraiment partout des tentatives, et il y a d'autres supports, YouTube également, Thomas Huchon faisait allusion à les campagnes présidentielles, je pense qu'il avait notamment en tête Asselineau, candidat du Frexit, hein, de la sortie de la France sur le modèle du Brexit, de l'Union Européenne, qui a été très 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 fort et très sponsorisé sur YouTube, hein. Donc on a vraiment un universel de ce modèle. Et si on y ajoute le fait que certaines puissances étrangères, par exemple la Russie, cherchent à avoir de l'influence déstabilisatrice sur certains pays à travers, elle aussi, la création, j'allais dire, en mode industriel, effectivement, c'est un phénomène mondial et mondialisé.
Un marché également planétaire, c'est-à-dire que pécunier, on peut gagner de l'argent grâce à ça.
Ben oui, c'est quand même c'est quand même le nerf de la guerre. Hein, s'il n'y a pas d'argent, c'est très difficile de faire tout ça. En l'occurrence, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux, mais raconter n'importe quoi, ça permet de gagner beaucoup d'argent.
Comment?
Vous allez avoir à la fois le premier échelon de la fusée, qui sont des satiristes, hein, un peu comme ce que fait le Gorafi en France, The Onion aux États-Unis, qui vont raconter n'importe quoi pour se moquer, pour rire, et qui vont gagner de l'argent avec la publicité sur Internet, avec tout un tas de systèmes. Mais vous allez aussi avoir des gens qui n'ont pas du tout cette motivation burlesque ou comique. Hein, vous allez avoir des gens qui vont chercher à établir une influence. Raconter n'importe quoi sur Internet, mentir sur la réalité des choses, ça permet de gagner beaucoup d'argent. Si on prend le cas du plus gros complotiste aux États-Unis qui s'appelle Alex Jones, c'est 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Si on vient un petit peu plus dans nos contrées et qu'on va voir par exemple chez Alain Soral, qui est aussi une très grande figure de cet univers de la désinformation sur Internet. Mathieu Mollard de Street Press, qui a fait un très beau bouquin sur Soral, expliquait qu'on était quand même à peu près à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel pour une publication de presse qui raconte n'importe quoi, y compris des choses largement condamnables par la justice de notre pays. Donc ça pose un vrai problème. Et on parle d'une influence mondialisée, bien entendu. Et tous les auditeurs qui sont sur le continent africain ce soir, qui sont en train d'écouter, eh bien, ils sont aussi les victimes de tout ça.
Et en quel sens?
Eh bien, plus les pays sont en train de se socialiser, en train de se développer, plus l'impact de l'Internet, qui est devenu le premier moyen de communication et le premier moyen de socialisation dans ces pays-là, encore plus que dans les démocraties occidentales, entre guillemets, eh bien cette influence est encore renforcée. Et d'ailleurs, les entreprises qui ont participé à la manipulation sur Internet pour la campagne de Trump avaient commencé à travailler au Burundi, dans des pays africains, au Botswana, au Cameroun. Et donc, ils ont testé quelque part la manipulation par Internet des élections, des scrutins, des opinions en Afrique, avant de l'utiliser en Angleterre pour le Brexit, aux États-Unis ou avec Jair Bolsonaro au Brésil.
Arnaud Mercier, en tant que sociologue, côté utilisateur, pourquoi est-ce que l'on croit à ces fake news quand on sait que l'information est fausse ?
Je vous remercie de poser la question parce que pour l'instant c'était le grand absent. On a l'impression que les fake news c'est uniquement la responsabilité de ceux qui les fabriquent, mais la vérité c'est que nous sommes tous responsables. Je pense que les médias aussi et les chercheurs également. Enfin, on a tous une part de responsabilité quelque part. Et ça, il faut en être pleinement conscient. Je disais tout à l'heure que c'est fake news, à mon avis, le terme s'est imposé parce qu'on sent bien que c'est pas des fausses nouvelles comme d'hab et qu'il y a quelque chose de différent. Ben, dans ce qu'il y a de différent, notamment, il y a le fait que la circulation repose sur le partage, sur le like, sur etc. Et que donc, elle trouve, je vais le dire un peu méchamment, des idiots utiles. C'est-à-dire des gens qui partagent, qui cliquent, alors et qui le font pour des tas de motivations. Certains le font parce que, alors, simplement, oh c'est drôle, ça change un peu. Bon, certains le font en doutant, en se disant ah, je sais pas si c'est vrai, mais bon, enfin, ça, c'est quand même bon, c'est quand même intriguant. Je vais quand même faut que je le partage avec les autres. D'autres le font. Par des intentions très très malignes et en sachant exactement pourquoi ils font ça, parce que ça déstabilise tel adversaire politique ou tel genre. Et puis il y a ceux qui le font, et je dirais c'est presque le plus dangereux, pour déstabiliser le système. C'est un bras d'honneur, voire un doigt d'honneur. C'est-à-dire que c'est vraiment un acte une sorte de rébellion sur, voilà, mais même si, je sais que c'est pas vrai, mais je vais le diffuser quand même parce que ça met en cause les bonnes mœurs, ça met en cause les habitudes, ça met en cause la pensée unique, ça met en cause le pouvoir, ça met en cause les sachants. Enfin, voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une forme de rébellion à faire ça.
Et une défiance aussi,
une défiance
j'ai envie de dire,
des médias.
Des avis des médias. Alors, qui est justement contraire, nous, à l'éthique et à la déontologie, quoi, de deux piliers fondamentaux du journalisme. En tant que journaliste, Thomas Huchon, ça nous remet aussi en question. Comment le métier peut-il se régénérer pour lutter face aux fake news?
Mais j'ai malgré tout l'impression que dans les rédactions, dans les grandes rédactions, dans les grands médias, le problème a été pris à bras-le-corps. Quand on voit le travail qui est fait par les décodeurs du Monde, par le service de l'AFP, géré par Grégoire Lemarchand, qui fait un travail exceptionnel, AFP Factuel. Enfin, quand vous avez un doute sur une info, franchement, allez-y. Et je dis pas ça parce que c'est des journalistes et parce que c'est des confrères. Je dis parce qu'en fait, ils font quelque chose que finalement on fait de moins en moins. Ils laissent le public se faire sa propre opinion sur les choses. Et pour ça, il faut du temps. Là, on parle des efforts que les journalistes doivent faire pour être plus crédibles, pour regagner cette confiance avec le public. Il y a aussi quelque chose qui doit venir de la part du public, hein, comme Arnaud Mercier l'a très bien dit. Il y a un moment où une information gratuite, de qualité, eh ben, ça devient totalement impossible à fabriquer. L'information, ça a un coût. Et moi, personnellement, après, quand je vais acheter ma baguette de pain, j'explique pas au boulanger comment il doit la faire. Si j'aime pas sa baguette, je vais dans une autre boulangerie. Et aujourd'hui, on a un petit peu l'impression, que de la même manière qu'on a 70 millions de sélectionneurs de l'équipe de France de football, on a 70 millions de rédacteurs en chef pour tous les médias. Et d'ailleurs, on est tous mis dans le même sac. Mmh. Vous qui travaillez pour RFI, moi qui travaille pour un site internet indépendant, on est considérés comme des menteurs de BFM. Voilà. Il y a un moment. Il va aussi falloir que cette complexité que le public exige de nos analyses, eh bien que le public l'intègre un tout petit peu aussi. Mmh. Et peut-être qu'ils comprennent aussi que l'information, ça a un coût. Mmh. Et que tout ça, il faut aussi nous aider un tout petit peu à le financer, mmh, tout simplement en achetant
la
les journaux.
La lutte, en tout cas, a l'air bien difficile. Vous avez des préconisations, Arnaud Mercier?
Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux, comme moyen d'accès à l'information, sont des puissants outils de désintermédiation journalistique, puisque effectivement, on finit par être informé par ceux qui ont liké, par nos amis, par ceux qui ont partagé, qui ont retweeté, etc. Et que on reçoit tout un flux de choses dans lequel tout est complètement, j'allais dire, mis sur le même plan. C'est-à-dire que un extrait de blog arrive en même temps sur notre fil d'actu qu'un contenu d'un site d'information un peu douteux, que d'un site très sérieux. Et donc, je pense qu'aussi, il y a une part d'éducation et d'effort de chacun à faire vis-à-vis de ça. Par rapport aux journalistes, je pense qu'il faut faire très attention. Le fact-checking, c'est très bien. C'est
une fact-checking en français.
Oui, donc la vérification des faits, ce qui devrait être la base du métier de journaliste, mais qui est devenu ce terme anglais pour signifier que face à cet afflux justement de fausses nouvelles, d'infox, etc., il y a un travail supplémentaire à faire pour informer le public des tentatives de manipulation qui sont faites à son encontre. Et donc, il faut faire attention parce que ce procédé de fact-checking a une limite. C'est-à-dire qu'il ne touche pas directement ceux qui n'ont pas envie d'être convaincus. Parce que le vrai problème de ça, c'est que moi j'appelle ça l'effet Colombo. Vous savez, l'inspecteur Colombo, on connaît déjà l'assassin puisqu'on commence par la scène du crime et puis après on voit le jeu du chat et de la souris entre l'inspecteur Colombo et l'assassin. Et ben là c'est pareil. Quand la plupart des gens qui vont lire du fact-checking, en fait, ils croient déjà que c'est faux. Ils veulent juste voir quel est le mécanisme de comment on le démonte.
Un mot de conclusion, Thomas Huchon.
Mais je crois que la seule solution pour arriver à une société un peu plus apaisée, dans laquelle on va s'informer de manière un peu plus saine, eh bien, c'est d'apprendre aux plus jeunes à utiliser cet univers d'Internet, à comprendre ce qu'il y a derrière. Il faut arrêter de donner du poisson, il faut apprendre à nos jeunes à pêcher.
Merci beaucoup pour cette métaphore qui vient refermer donc ce journal,
de Noël,
ce débat. Thomas Huchon, journaliste documentaire pour le site internet Spicy, et Arnaud Mercier, professeur en communication, président honoraire du site Conversation. Merci également à Valentin Vaner pour la mise en onde, rédaction en chef Patrick Adam, coordination Déborah Lepage. Où que vous soyez sur la planète, merci à vous d'écouter RFI.